Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 de Québec au pluriel, qui est le troisième enregistré lors de mon périple le long de la route 132. Il a été enregistré il y a plus d'un mois maintenant, au début du mois de mars, la même journée que l'entrevue avec Perrine Leblanc qui constitue l'épisode de la semaine passée. Je remercie d'ailleurs Perrine de m'avoir suggéré le nom de mon invité d'aujourd'hui et de m'avoir conduit jusqu'à elle avec son conjoint. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'un sujet qui n'est pas des plus faciles à aborder dans un balado, celui de l'art visuel. Pour visualiser les œuvres dont il est question, je vous invite à regarder les photos que j'ai prises dans l'atelier où nous avons enregistré l'entrevue et que j'ai postées sur Instagram, ou de vous rendre sur le site internet de l'artiste dont le lien est dans la description de l'épisode. Sinon, laissez-vous simplement porter par votre imagination. Bonne écoute! Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Nadia.
Allô, Alexia.
Merci de me recevoir dans ton atelier ici à Chandler. Donc, on est en Gaspésie. Parce que toi, tu es originaire de la Gaspésie, c'est ça?
Moi, je suis née ici.
Est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer quels sont tes liens avec la Gaspésie? Quelles sont tes influences?
Alors, bien, mon nom, c'est Nadia Haït Saïd. Et oui, je suis née ici, en Gaspésie, exactement dans ce village. En fait, le petit village à côté, Pabot. Et puis, donc, je suis née. Et puis, bien, comme beaucoup de Gaspésiens, on a une migration nécessaire rendue aux études. Peut-être moins maintenant, parce que maintenant, on a de la chance de faire des études tout près. Mais moi, j'ai quitté, j'avais 16 ans.
Et où est-ce que tu es partie?
La première fois, je suis partie à Sherbrooke.
D'accord. Ouais,
j'avais une sœur qui étudiait à l'université et puis je l'ai rejoint.
Et aujourd'hui, tu vis entre Chandler et Montréal à peu près?
Oui, mais depuis la pandémie, on dirait que je suis vraiment beaucoup plus ici. Puis j'ai fait vraiment, moi, en 2006, la décision de revenir vivre en Gaspésie. Donc, j'alterne beaucoup avec Montréal, mais je peux dire que mon pied à terre, vraiment, là, mon ancrage est vraiment la Gaspésie. Depuis 2006, puis même à partir de 2001, je venais passer 3 mois ici en Gaspésie, puis je passais les restants du temps à Montréal. Et je voyageais aussi beaucoup aussi à travers tout ça. Puis vraiment, c'est ça, mon atelier, là, mes ancrages sont quand même vraiment la Gaspésie.
Oui, parce qu'on est dans ton atelier parce que tu es artiste visuel.
Oui.
Le balado, c'est pas forcément le médium vers lequel on se tourne le plus pour aller rencontrer des artistes visuels.
C'est vrai.
Mais est-ce que tu serais capable de décrire ta pratique à nos auditeurs et aux nos auditrices?
Oui. C'est vrai que c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Mais moi, je pourrais dire, en tout cas, déjà, parler de ma recherche, moi, avant les arts visuels, moi, j'ai un parcours en anthropologie. Et j'ai migré vers les arts visuels parce que, justement, j'avais un thème qui touche hein, beaucoup tes intérêts, l'identité. Donc, c'est ce qui m'a conduit vers l'anthropologie. Et à force d'affiner ce thème-là, à un moment donné, c'était beaucoup plus, pour moi, pertinent de le véhiculer à travers l'art visuel. Et ma pratique, en faisant ce fil conducteur-là, c'est aussi ça qui m'a fait évoluer, transformer les matières. Donc, je suis passée d'une œuvre très, très matérielle avec, si on ne voit pas, mais dans mon atelier, on voit comme une texture. Je pourrais en reparler tantôt parce que tu vas voir qu'il y a des liens avec peut-être des thèmes qui t'intéresseront. C'est ça, donc une œuvre avec des matières souvent même du territoire à l'époque. Je travaillais même avec des pièces qu'on trouvait sur le bord des plages. Montréal, j'utilisais le métal rouillé, etc. Et pour élargir aussi même l'argile locale que je prenais dans les falaises, à aujourd'hui, une œuvre complètement immatérielle. Donc, je travaille beaucoup plus en vidéo. Pour justement, encore là, affiner la recherche dans laquelle je suis. Je travaille beaucoup l'art relationnel avec les gens et une matière foulard. On pourrait aussi en reparler tantôt parce que ça je sens que ça peut... En fait, quand je regarde mon art, ça vient... Comme mon thème, c'est l'identité, donc forcément, ça touche de la densité dans ces thèmes que je crois que tu chéris là, dans ton balado.
En effet. Et comment est-ce que tu en es venue à explorer ce thème de l'identité dans ton art?
Comment j'en suis venue? Mais Peut-être, hein, que, comment dire, ben je pense que c'est carrément le fait, justement, de venir de deux cultures. Je pense que moi, quand j'étais, ben en fait, il faut le dire, hein, moi, le fait d'être ici en Gaspésie, même encore maintenant, on a quand même beaucoup plus de diversité, mais c'est pas comme si je suis née à Montréal où tu es constamment en relation avec la différence. Donc moi, quand j'étais ici, j'étais la différence. Peut-être moins que mon père, parce que mon père était vraiment, lui, venait d'ici. Moi, je suis née là, mais tous les jours, juste mon nom de famille. Donc, combien de fois j'ai épelé mon nom de famille? A-I. C'est drôle parce que dans les dernières années, je voyage moins parce qu'avec la pandémie, je suis restée beaucoup plus ici. Puis je m'aperçois que c'est un mot que, enfin, je ne redis pas plusieurs fois par jour, mais normalement, A-I trématé, trait d'union, S-A-I trémadé, je le dis, mais constamment. Donc, juste le fait d'avoir un nom différent. Ça a toujours sollicité beaucoup de questions. Il y a toujours eu... C'est ça, ça a toujours été marqueur de différence, le fait d'être d'originaire d'un papa qui était de l'ailleurs, si tu veux. Là.
Oui, parce que, comme tu le disais, tes parents viennent de deux pays différents. Donc, ta mère est gaspésienne et ton père est algérien.
Exactement.
Et donc, tu as le nom algérien de ton papa.
Eh oui, exact.
Et par curiosité, comment un Algérien se retrouve à vivre en Gaspésie?
Mais oui, hein.
Ça m'intrigue.
D'ailleurs, c'est lui que tu aurais dû aller interroger.
Ça aurait été intéressant.
Oui, tu aurais eu quelque chose de vraiment intéressant parce que, ben, en fait, mon papa avait le grand souhait de quitter l'Algérie. En fait, c'était un curieux. Il voulait vivre ailleurs, il voulait explorer. Et puis, à l'époque, il y avait... postulé pour, en fait, plusieurs pays. Hein. C'est pas, il n'avait pas misé nécessairement sur le Canada. Lui, il voulait faire des études, en fait, ailleurs. Alors, il avait postulé pour des bourses d'études. Et puis, il y avait l'Australie, il y avait la France, je pense l'Espagne, l'Allemagne et le Canada. Et le Canada a été le premier pays qui l'a accueilli. Et puis, il a dit un grand oui à ça. Puis, en fait, la bourse d'études, c'était en océanographie, qui était à l'Université Laval, mais il y avait une succursale, un volet, ici, à l'Institut des pêches à Grande-Rivière. Donc, c'est
d'accord.
Comme ça qu'il a fait cette grande trajectoire vers la Gaspésie.
Et finalement, il a mis son encre en Gaspésie.
Oui, il a rencontré une merveilleuse femme qui s'appelle Muriel. Il est tombé amoureux. Il est d'ailleurs très, très amoureux depuis. Et puis, c'est ça qui a fait qu'il a vraiment mis l'encre, comme tu dis. Oui.
Et avec ta famille, comment est-ce que vous avez composé avec ces deux cultures, notamment pendant ton enfance? Est-ce que tu as eu une transmission de cette culture algérienne de la part de ton papa?
Oui, évidemment. Ça n'a pas été comme une transmission... d'emblée. Je pense que si c'était ma maman qui était algérienne, je pense que j'aurais eu un héritage beaucoup plus prononcé. Mais mon papa était quand même la figure d'autorité dans la maison et c'est certain que je n'ai pas eu une éducation comme les Québécois. Donc vraiment, là, ça, je peux vraiment dire ça. Et puis, il y a des choses qui sont toujours amusantes. Quand moi, je pense à mon enfance, je pense à l'Algérie, forcément, je pense à la cuisine, peut-être parce que je suis gourmande, mais j'adorais quand mon papa faisait, entre autres, le couscous. À la maison, tous les plats algériens, c'était papa qui les faisait. Mais pas aujourd'hui, parce qu'imaginez que la transmission, ça, il l'a fait. Hein. Il a transmis le savoir à ma maman comment faire le couscous et la chikchouka, etc. Donc maintenant, c'est maman qui le fait. Mais tu vois, l'année passée, on lui disait, « Hey, ça fait trop longtemps que tu n'as pas fait le couscous, c'est lui qui l'a fait. » Donc c'est vraiment des souvenirs très, très palpables. Et aujourd'hui aussi, c'est ça, les plats algériens sont toujours les bienvenus à la maison. Mm-hmm.
Et est-ce que le couscous a été influencé par la Gaspésie? Est-ce que c'est du couscous au saumon ou quelque chose comme ça?
Non, c'est vraiment, c'est drôle parce que c'est vrai qu'on pourrait faire des couscous au poisson. D'ailleurs, même là-bas, ils font des couscous au poisson. Mais non, nous, c'est très, très traditionnel. Et moi, qui fais le couscous, je ne le fais pas comme mes parents. Moi, je l'ai appris... ni mon père ni ma mère. Puis c'est une autre sorte d'influence. Je le fais plus végétarien, contrairement à eux. Moi, je mets des pruneaux, des raisins, des olives, tandis que pas eux. Non, mais sont très bons. C'est dommage que tu ne restes pas plus longtemps parce qu'on pourrait t'accueillir avec un bon couscous. Tu dois revenir.
C'est ça. Je serai la première personne qui vient en Gaspésie pour manger du couscous.
Oui. Bon, peut-être un spécial de mettre un peu de poisson là, pour que tu puisses avoir la culture gaspésienne à travers ça.
Et toi, comment tu le vivais quand tu étais plus jeune? Comme tu disais, tu étais un peu une des seules personnes à avoir une influence aussi lointaine, si je peux dire. Est-ce que tu composais avec ça de manière facile ou est-ce que tu as eu des moments de rejet de cette culture-là en te disant « non, je vais être comme tout le monde » Est-ce que ça a évolué?
Comment dire? Non, dans le sens que c'est sûr que la différence, je l'ai toujours ressentie. On me le faisait savoir aussi. Donc ça, il y avait toujours ça. Il y a eu une petite épisode que... Ça, c'était un petit peu étrange. Puis il faut dire, je suis pas si vieille que ça. Puis j'ai quand même vécu ce que je vais te raconter, là. À l'époque, à l'école, il y avait l'enseignement religieux. Ça, c'était pas super prenant, mais dans nos cours, on avait un cours d'enseignement religieux. Et moi, je n'étais pas baptisée. Mes parents, ça, j'ai beaucoup apprécié ça, mes parents, comme ils étaient de deux confessions différentes, avaient, puis tous les deux sont pas très, non plus très religieux, mais ils voulaient m'offrir, moi, l'opportunité de choisir. Et ça, je trouvais ça merveilleux, tu sais, qu'on pensait à m'offrir cette possibilité-là. Donc, je n'étais pas baptisée. Et puis, j'allais faire ce choix-là quand j'allais être justement mature, dans la capacité de comprendre le choix que j'allais faire. Et puis, j'avais un professeur qui, écoute, c'était vraiment un traumatisme quasiment. Tous les lundis, elle demandait qui était allé à la messe. Et il fallait lever la main. Puis elle disait, j'en vois pas un qui lève la main puis qui est pas là, parce que moi, je vous vois là, quand je suis à l'église. Donc là, je trouvais ça vraiment inconfortable. Et un jour, c'est allé loin, elle disait qu'elle allait mettre un point de plus à l'ordo. Donc, on appelait ça de l'ordo à l'époque. Donc, ça venait même jouer sur les crédits scolaires. Puis là, ça avait dérangé mes parents. Et puis, donc, on m'a baptisée vraiment pour, régler le truc, puis tout ça. Parce que ça, j'ai trouvé ça dommage, parce que moi, j'aurais pu absorber le malaise scolaire. Mais donc, moi, 8-9 ans, je ne m'en souviens plus, mais je me suis fait arroser la tête en sachant très bien que je faisais ça pour rendre les trucs plus facilitants,
ouais,
si tu veux. Ouais, donc ça, c'était étonnant. Puis quelques années après, il y a eu l'enseignement moral, donc ça a permis de régler toutes ces petites choses-là. Mais c'est quand même étonnant, à mon époque, en tout cas, que je pouvais vivre des petits trucs comme ça.
Mais donc, de ce que je comprends, ça venait plus des adultes que des enfants, alors que je me serais attendue à ce que tu dises que c'était les enfants qui faisaient des commentaires.
Non, je pense pas. Les enfants, moi, il faut dire que... J'ai quand même, je ne sais pas si on va aborder ça en nombre, mais j'ai quand même eu une adolescence qui n'a pas été si facile. Mais je ne sais pas si c'était à cause de mes origines, mais ici, dans les écoles, c'était difficile. Hein? Il y avait beaucoup d'agressivité. Moi, j'étais très différente, pas juste de mon nom, mais j'ai toujours été très différente, en fait. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'art, j'avais une autre façon de vivre, puis ça, ce n'était pas si facile. Ouais, j'ai des souvenirs moins agréables quand je pense à ça.
Et justement, à l'adolescence, est-ce que ça a été un moment où tu as eu des questionnements, où tu as été tentée de vouloir abandonner une culture pour l'autre, ou ce genre de choses?
Non, pas du tout. Moi, là, pour moi, mes origines, je peux te dire que le fait de venir d'un papa... qui venait de loin, une culture, parce que, bon, il faut dire, il y avait une histoire aussi par rapport à mon papa qui ne pouvait pas retourner en Algérie. Il y a eu tout le temps cet appel vers le loin, une curiosité. J'ai un lien du cœur très, très fort avec l'Algérie. Mes oncles sont venus, j'ai habité avec eux, ils sont venus passer beaucoup de temps. J'ai un amour, c'était très, très, très... C'était même une fascination, j'avais une curiosité. Et il faut dire aussi, c'est ça, dans ta première question, je te parlais que papa le transmettait au niveau de la nourriture, mais mon papa était très silencieux. C'est pas quelqu'un qui a tellement partagé. Mais j'avais une admiration même envers mon papa. Je le trouvais beau, j'adorais quand il parlait, il avait une belle voix, sa manière de s'exprimer. Il me racontait les fables de La Fontaine. Pourtant, ça, c'est plus des influences françaises. Donc, il y avait une intrigue pour moi. Donc, très jeune, j'avais un jeu. Moi-même, je pense que ma grand-maman ou même mes parents avaient ça. On avait un globe terrestre. Et moi, je tournais le globe, là, je mettais mon doigt, puis je m'amusais à savoir où j'allais aller. Et j'ai toujours été une voyageuse.
Et finalement, tu as voyagé en Algérie. Dans quel contexte ça s'est fait, ta rencontre avec l'Algérie?
Mon voyage a vraiment tardé. C'était, depuis que j'étais jeune, je rêvais d'aller en Algérie, mais le contexte familial, donc on ne pouvait pas aller avec la famille. Et par la suite, il y a eu la décennie noire, là, comme on sait, donc un 10 ans hein, où l'Algérie était en guerre civile. Et puis moi, j'ai aussi eu des problèmes de santé durant plusieurs années. Donc tout ça a fait que je suis allée dans mon premier voyage. Dans mes souvenirs, j'avais 39 ans. Ouais.
Et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir?
Ah, ça a été... quel voyage, hein? C'était un voyage qui a été... un voyage qui a été fabuleux. Ma famille, c'était une grande, grande famille. Puis dans ma famille, c'est amusant parce que... Je connaissais deux oncles, une tante. Mais ma famille, à l'époque, hein, maintenant, ça a doublé. Mais à l'époque, il était environ 150. Maintenant, c'est beaucoup plus. Et c'était d'arriver et découvrir, à quelque part, on pourrait dire, des gens que je ne connais pas. Mais quand on s'est rencontrés, c'était... Il y avait un accueil, un amour. On me prenait dans les bras, c'était tellement chaleureux. Et c'est certain qu'à travers moi, ils voyaient leurs frères, ils voyaient leur oncle, ils voyaient leur... Tu vois, donc, c'était émouvant parce que je savais qu'il y avait un double regard sur moi. Et ça a été un voyage fabuleux, ouais.
Et donc, tu as l'impression qu'ils voyaient ton papa, donc un aspect algérien chez toi. Ils ne t'ont pas accueilli comme une petite Québécoise qui débarque en Algérie?
Ah ben non, j'étais vraiment une membre de la famille, totalement. Une intimité, on était très, très proches du cœur. Puis c'était tellement beau parce que mes tantes, plusieurs ne parlaient pas français. Donc moi, mes parents, mon papa est kabyle. Donc ma famille parle kabyle ou arabe. Les plus jeunes, pardon, parlent français quand même. Et puis... On se parlait. Moi, on était capable de communiquer. J'ai jamais senti que la langue m'avait manqué.
D'accord.
Parce que, vraiment, je pense qu'il y a un langage du cœur. Hein. Ça traverse toutes les langues.
Et toi, tu t'es sentie comment? Est-ce que tu as senti une proximité avec cette culture algérienne ou au contraire, tu t'es rendu compte d'à quel point tu étais québécoise quand tu as été face à cette autre culture?
Ah oui, ça, c'est intéressant. Oui. J'étais différente. Je pourrais jamais dire que je suis algérienne, parce que être algérienne, c'est une autre texture totalement. Leur rapport à la vie n'est pas le même que le mien. Et en même temps, est-ce que je suis vraiment québécoise? Je pense que oui, je suis vraiment québécoise, mais il y a une telle couleur dans ma vie qui est justement texturée par... cette richesse de l'Algérie. Et tu vois, pour le faire, là, j'ai quasiment le goût de passer par l'art, si tu permets.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses qui viennent pour moi de là.
Et comment?
Je t'explique.
Oui.
Donc, moi, je me suis vraiment affirmée comme artiste en 2001, au même moment que je revenais ici en Gaspésie. Donc, comme je disais, je suis née, j'ai quitté et je suis revenue en 2001, officiellement en 2005 à temps plein. Et puis, en 2001, j'ai entamé une œuvre que j'ai appelée « Origine ». Et « Origine », pour moi, quand je l'ai abordée, j'allais vraiment origine. Donc, à l'époque, j'étais vraiment attirée vers justement l'identité. Donc, c'était vraiment origine, identité culturelle. Mais je suis allée beaucoup plus loin que l'identité culturelle, mais à cette époque-là, c'était ça. Et c'était aussi le retour chez moi, dans mon lieu d'origine. Donc, je trouvais que le titre prenait toutes sortes de connotations. Alors, je l'ai fait et je me disais, ah, c'est super, je fais ça ici et ensuite je vais aller faire l'autre versant en Algérie. Ça avait été pensé comme ça. Et quand j'étais à Montréal, ça, il faut le dire aussi, j'étais très, très près de la communauté algérienne, la communauté artistique du Maghreb, pas juste de l'Algérie, mais du Maghreb en général. qui est une communauté qui est très, très accueillante. Dès que je suis arrivée là-bas, c'était merveilleux parce qu'on m'invitait à exposer et puis tout ça. Et puis, donc, avec eux, je me suis toujours sentie très, très, très proche. Puis là, je vais vous donner des trucs, mais je vais juste avoir un petit flash qui me vient. C'est qu'à un moment donné, durant une des expositions, il y a un journaliste, comme toi, qui est là, qui m'interroge et qui me pose des questions. Puis à un moment donné, il fait un commentaire et il dit « Ah oui, c'est vraiment intéressant, l'iconographie algérienne dans votre œuvre, tatata. » Puis là, j'étais comme « Iconographie algérienne ?» C'était très amusant parce que c'était toutes les œuvres que j'avais faites en Gaspésie. Et il posait des questions, puis avec toutes ces questions, à un moment donné, je me dis « Ah, ben c'est fascinant parce que, effectivement, quand on regarde mes œuvres, parce que tu vois, ça, c'est la texture origine qu'on retrouve à travers quasiment l'ensemble de mon œuvre. Donc, c'est une texture qui fait un petit peu peau d'animal dans les terres, dans les couleurs terre, on pourrait dire saharienne, tu sais. Et je réalisais que l'ensemble de mes œuvres, pour quelqu'un qui ne sait pas d'où je viens, pouvait faire plus penser à des œuvres venant d'ailleurs, le Maghreb, le Proche-Orient, puis tout ça. Tandis qu'effectivement, on peut peut-être s'attendre, en venant de la Gaspésie, on est influencé par des paysages. C'est sûr, il y a le sable, mais tu vois, dans les couleurs de mes œuvres, on pouvait sentir un ailleurs. Et puis moi, je me disais, c'est intéressant parce que, à quelque part, le métissage sont dans les œuvres.
Ouais.
Et qu'il n'y avait pas nécessairement Nadia algérienne, Nadia gaspésienne, puis que je devais aller aux deux rencontres pour créer une œuvre, mais plutôt j'ai senti que il y avait comme quelque chose de viscéral, une couleur intérieure qui traduisait finalement le métissage. Voilà.
Et donc ça, c'est pas quelque chose que toi t'avais fait consciemment?
Ah, pas du tout.
Et pas c'est comme tout. Si tu l'avais porté en toi et que c'était ressorti tout seul finalement?
Oui, vraiment, vraiment. Puis un autre événement, encore là avec la communauté, je pense que c'est vraiment en côtoyant beaucoup les amis algériens, la communauté algérienne aussi, que j'ai réalisé que justement l'identité, c'est une identité plurielle et que mon identité avait sa place dans cette multitude des possibles et tout ça, parce qu'à un moment donné, j'ai été intimidée. C'était une exposition, justement, j'étais avec eux et il y avait un journaliste. Souvent, c'est des journalistes, finalement, qui m'ont fait travailler fort.
Ils sont tannants.
Ah, ils sont tannants. Et naturellement, il s'est mis à me parler arabe. Et là, et non, je ne parlais pas arabe. Et ça, ça m'avait beaucoup intimidée. Ou si ça avait été kabyle, ça aurait été encore plus intéressant parce que c'est encore vraiment plus la langue maternelle de papa. Et puis, il y avait toujours ce malaise d'avoir une communauté qui est si intime avec moi, et moi, en échange, d'avoir tellement pas les mêmes codes, les mêmes possibilités de communication, j'ai pas les mêmes images. Quand on parle de l'Algérie, moi, j'ai pas les images qu'eux portent. Et puis, à un moment donné, ils m'ont demandé de faire un hommage à un artiste qui s'appelle Essiarem. Et j'ai accepté, Milo Chinoufi avait fait une super conférence et j'avais été très, l'histoire de ce peintre-là m'avait énormément touchée et c'était facile pour moi de penser faire une œuvre pour lui. Et il était, je pense que c'est Katab Yassine, il était très ami avec un poète. Alors, dans cette œuvre-là, il y avait comme une espèce d'évidence que j'allais faire de l'écriture. Et ça a été très marquant. C'est que je me suis mis à inventer une écriture et je me suis permise d'écrire de droite à gauche une écriture qui était la mienne et qui devenait même un geste, parce que l'écriture, c'est un geste quand t'écris en arabe. Donc, je me suis appropriée des codes et j'ai affirmé une écriture pour lui offrir à lui. Et ça traduisait aussi tout mon parcours à moi, de toute mon histoire. Et ça a été... c'était fabuleux. Puis si tu viens dans l'atelier, tu vas voir qu'on en voit ici, on en voit sur ces tableaux-là. Parce qu'après, j'ai fait une œuvre qui s'appelle « Engramme ». Et toutes ces œuvres-là ont été faites à partir de cette écriture imaginaire qui est devenue une écriture pour moi très, 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 très riche. Parce que, justement, comme elle est imaginaire, elle n'a pas ses frontières de langue, de limites. Et on peut s'exprimer énormément avec cette écriture-là. Donc, c'est devenu quelque chose d'intéressant. Mais encore là, ça a été un catalyseur d'avoir été en contact avec... avec encore les Algériens artistes.
Et tu mentionnais que ton papa est kabyle. La culture kabyle, c'est encore une culture à part par rapport à la culture arabe.
Ah oui, totalement.
Est-ce que c'est quelque chose, toi, déjà, auquel tu étais sensible quand tu as grandi, de cette différence-là entre kabyle et arabe?
Oui.
Ouais.
Oui, papa disait toujours, on est kabyle, on n'est pas arabe.
Et toi, tu te sens kabyle?
Je ne peux pas dire ces choses-là comme ça. Non, je ne peux pas dire je suis kabyle, je ne peux pas dire je ne suis pas du tout arabe. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire que, forcément, je suis gaspésienne, je suis québécoise. Et avec... comment dire ça? C'est comme une sensation de c'est même pas un sentiment d'appartenance parce que c'est tellement différent. Mais un lien du cœur, tiens, je vais le nommer comme ça. Parce qu'on a des cultures de cœur. Moi, dans ma vie, j'ai eu la très, très grande chance de croiser la culture tibétaine. Et cette culture-là est devenue une culture aussi où je suis très, très intime. Et je pourrais dire aussi la culture turque, perse. Il y a des cultures qui on a de l'affinité. Même quand je vais en Espagne, il y a quelque chose qui est très, très près de mon identité aussi. Donc, c'est pas que les lieux, même, peut-être même plus que la Gaspésie. La Gaspésie, moi, j'ai un lien parce que je suis une amoureuse de la mer. Partout où il y a la mer, moi, je suis chez moi. En fait, je pourrais dire ça comme ça. Mon ancrage identitaire, c'est la mer et partout où il y a la mer, je me sens chez moi. Ouais.
Mais tu as quand même répété plusieurs fois « je suis gaspésienne, je suis québécoise ». Qu'est-ce qui te fait te sentir québécoise? Qu'est-ce qui te fait te sentir gaspésienne?
Oui. En fait, c'est très bizarre que je dise ça, en fait. Parce que moi, quand j'étais ici, je ne me sentais pas québécoise, je ne me sentais pas gaspésienne. J'avais jamais senti ce sentiment-là et je trouvais ça très drôle. Et ça reste quand même drôle pour moi. C'est particulier. Je sens que les gens ont beaucoup un sentiment d'appartenance. C'est leur identité, c'est leur pays, c'est leur... Moi, j'ai pas ça, là. J'ai vraiment pas ça. Par contre, c'est vrai que j'aime la Gaspésie. J'ai aimé la Gaspésie quand je suis revenue. J'avais 30... J'avais quoi? J'avais fin de la vingtaine. Quand je suis arrivée ici, parce que, bon, le fait que je suis née ici, j'avais pas nécessairement... Puis quand je suis revenue... J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ma région. Puis un endroit en particulier qui me rappelait un souvenir de voyage. Et par la suite, c'est vrai qu'ici, il y a une qualité de vie, il y a quelque chose que je recherche qui me plaît vraiment beaucoup. Puis c'est plus dans les dernières années, je dirais, dans ma vie plus adulte, que je peux dire, ben oui, je suis québécoise, je peux le ressentir comme ça. Puis c'est vrai que je l'ai nommé en entrevue. Puis pourtant, je n'avais pas ces sentiments-là. Je n'aurais jamais nommé ça à l'époque. Je suis québécoise, je suis gaspésienne. Non, je n'ai pas...
Mais j'ai l'impression qu'il faut souvent partir pour faire le choix, finalement, de vouloir revenir et de se rendre compte de ce qu'on a toujours pensé comme acquis, mais on s'est rendu compte que finalement, ça ne l'était pas tant que ça. Je ne parle pas beaucoup de moi dans les épisodes, mais ce que tu dis, ça me fait vraiment penser... Moi, j'ai grandi en Provence, mais... Si j'avais connu que ça jusqu'à mes 18 ans, et pour moi, c'était la normalité, et je voyais pas vraiment pourquoi les gens étaient si émerveillés quand je disais que je venais de la Provence, par exemple. Et c'est à quelques années, quand je suis retournée en vacances, que notamment je faisais du vélo dans les champs autour de chez moi, que je me suis dit, on dirait vraiment une peinture de Van Gogh ou de Monet. Et j'ai compris un peu l'attrait de cette région et pourquoi les gens venaient. Là où pour moi, c'était, pendant des années, c'était juste les champs autour de la maison. Il n'y avait rien d'extraordinaire à ça.
Intéressant, hein? Ah, tu vois, c'est ça. Donc, un nouveau regard sur quelque chose qu'on connaît.
Et dans ton cheminement artistique, donc après ces œuvres-là qui sont un peu autour de nous, où il y a cette fameuse écriture imaginaire, comment est-ce que tu as continué à cheminer autour de cette thématique de l'identité?
C'est vraiment intéressant parce que, justement, je parlais de la culture tibétaine. C'est vraiment à travers eux que... on m'a posé plusieurs questions, tu sais, à savoir est-ce que je suis ça, est-ce que je suis ça, est-ce que je suis ci et ça. Puis à chaque fois qu'il y avait une réponse à ça, c'est toujours mais si tu n'étais pas ça, et si tu n'étais pas ça. Et là, l'identité est devenue quelque chose de vraiment intéressant parce que c'était qu'est-ce que je suis si je ne suis pas ça? Et ça a été un travail d'épuration. Mmh. Épuration à savoir. Et c'est ça, ça, c'est devenu vraiment un thème artistique. Donc, mon travail, c'est construit au départ avec des couches de sens pour densifier l'identité. Puis, à un moment donné, j'ai fait le chemin inverse. Donc, l'écriture qu'on voit là, elle a été écrite. En plus, il y avait des textes, des cendres de textes qui étaient vraiment dans les interstices des écritures. Donc, ça densifiait. Et à un moment donné, tout ça, j'ai commencé à effacer tout ça. On voit comme la matière de mes pièces nues derrière comme des épaisseurs pour effacer tout ça. Donc, pour moi, c'est tout un travail de dévoilement. Et ça, c'est vraiment intéressant pour aller toucher une identité qui est vraiment plus fondamentale au-delà de la culture. Et ça, c'est ma recherche essentielle.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler du projet sur lequel tu travailles en ce moment?
C'est drôle parce que on dirait que c'est dans notre rencontre que je m'aperçois à quel point l'Algérie est partout, dans le fond, parce que c'est tellement étonnant. On dirait que je suis en train de me dire, écoute, Essariam, cette œuvre-là a été à l'origine du projet Engram, origine a pris cette texture-là, et puis là, le projet s'appelle Madras. Mais tu sais quoi? Madras est né en Algérie. L'histoire, en fait, c'est que dans mon premier voyage, je suis allée deux fois en Algérie. Donc, la première fois, c'est le fameux voyage que je te racontais tantôt. Donc, à l'époque, je travaillais beaucoup les matières, le bois, le métal, etc., tout ça. Et quand je suis arrivée en Algérie, j'étais très, attirée par le foulard, en fait, parce que toutes les femmes de ma famille portaient le foulard. Et là, je n'avais pas un regard, le foulard religieux, tout ça. J'étais vraiment juste à le regarder, voir la coquetterie, comment elle le portait, comment, justement, elle s'habillait tous les matins, et puis tout le geste de le faire, de le porter, tout ça. Puis, à un moment donné, c'était devenu amusant de le regarder, de voir tout ça. Puis, j'ai eu, je pense que justement, on sort de l'atelier, mais l'atelier devient aussi un espace ouvert quand on voyage. Et je me suis dit, je ne sais pas si ça se demande. Si elles pouvaient m'offrir un de leurs foulards. Et là, c'est devenu une question vraiment, c'était quoi leur lien avec le foulard? C'est quelque chose qui se demande et tout ça. Et puis là, j'ai commencé à demander à une de mes tantes. Et avec joie, elle était avec un sac de foulards. Puis je pensais pas qu'on portait autant de...
de foulards différents?
Oui, c'est ça. Elle dit, oui, tu peux prendre celui-là. Et j'ai dit, ah oui? Puis là, j'ai commencé à lui poser, c'était quoi l'histoire derrière ça? C'était quoi son histoire? Et comme la majorité des gens ne savaient pas non plus écrire et tout ça, donc je leur demandais soit de m'écrire une prière ou d'écrire un mot. Ah non, c'est pas vrai que les femmes n'écrivaient pas, mais deux de mes tantes n'écrivaient pas. Mais j'allais dire, c'est que je voulais pas leur demander de prendre des photos, je voulais garder ça un peu intime, et je demandais de photographier leurs mains sur le foulard. Et en fait, tout ça, je ne savais pas que ça allait devenir la grande aventure dans laquelle je suis depuis presque 10 ans maintenant. Attends, j'ai commencé, je suis allée en 2000, je pense qu'on était en 2011, et j'ai commencé à travailler vraiment sur l'œuvre, vraiment plus en 2017, mais écoute, c'est devenu une grande, grande cueillette de foulards à travers le monde entier. Et ça a commencé comme ça. J'ai demandé à tous les membres de ma famille, je ne pensais pas que ça allait faire une telle convivialité entre nous. Le projet a commencé dans la camaraderie, à me faire raconter toutes sortes d'histoires, à faire des foulards. Et moi, je suis rentrée au Québec avec un baluchon de foulard. Et j'ai eu une opportunité de faire une performance avec ça. Et à un moment donné, c'est comme ça que des femmes ont commencé à m'offrir des foulards. Après ça, des hommes. Et c'est devenu une immense collecte. Et depuis, je travaille avec cette matière foulard-là, avec le thème que je suis en train de raconter, qui est cette identité. Maintenant, j'aime bien aussi parler d'enfermement, déploiement. Je travaille beaucoup aussi avec l'univers de la perception, comment on peut voir, si tu as vu un petit peu tout à l'heure mes œuvres, quasiment toutes mes œuvres sont emballées parce que je raconte que justement, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On a toujours cette espèce de filtre, qu'il soit culturel, personnel, ou toi, qui vient émotionnel, qui vient toujours nous empêcher de voir. En fait, ça vient comme colorer notre regard. Donc, l'œuvre parle de ça. Et c'est une invitation à déballer pour arriver à percer le regard. Donc, voir les choses telles qu'elles sont. tout le travail est à ce niveau-là.
D'accord. Et là, tu prépares quelque chose qui mélange ces foulards-là et l'hiver?
Oui. Donc là, on est dans un petit volet. Je pense le mot « petit », on va enlever le mot « petit ». Je suis dans un volet parce que c'est un projet que je mature depuis longtemps et c'est une pièce où on voit des personnages qui sont emballés de la tête aux pieds avec des foulards face à la mer. Donc, il y a une partie avant cette œuvre-là où les gens sont dans un théâtre. Alors, il n'y a pas de perspective, on est dans un théâtre, on est tout emballé. Et c'est une performance où je demande aux gens juste d'habiter cet espace restreint. Je commets les gens quand même, je les mets un peu dans des contextes exigeants parce que on va rester 30 minutes dans des positions comme ça. Et l'œuvre qu'on voit, c'est qu'après, je fais la même scène où il y a vraiment une opportunité d'amener le personnage vers l'extérieur. Donc, on est en train d'entamer le début de l'ouverture. Donc, le projet s'appelle Madras. Et justement, le projet Madras, tu as parlé tantôt d'un tissu. Effectivement, c'est le nom d'un tissu. On dit que ouais. C'est une étoffe à chaîne de soie de couleur vive. Et je trouvais que c'était un titre magnifique pour toutes les foulards, mais aussi le tissu de... Voyons, comment j'ai dit ça? Un madras, c'est une étoffe à chaîne de soie. Donc, la soie me faisait penser au verre à soie. Et comme le verre à soie, donc le papillon. Je trouvais que c'était toute une belle métaphore sur tout l'ensemble de cette œuvre-là qui parle de cette ouverture, de l'enfermement vers l'ouverture. Alors, Cocon, je l'appelle Cocon, est une œuvre qui touche vraiment ce thème-là. Puis là, ben, on est là-dedans. On est en plein préparation de tournage. Le tournage, on le tente pour en fin de semaine. On est quand même dans des conditions climatiques atypiques. Normalement, c'est un tournage qui devait se faire fin mars, première semaine d'avril. Les tests qui ont été faits là, ça a été fait en 2017 avec cette neige blanche. Et là, ben, on essaye de traverser la possibilité, on va voir si ça va se faire. Ouais.
Mais pourquoi est-ce que c'est si important pour toi que ce soit avec de la neige sur la plage? Parce qu'il pourrait être face à l'eau sans neige.
Ouais. En fait, en 2017, j'ai été invitée par une commissaire, justement, au moment où je commençais à travailler sur les œuvres matérielles, et j'étais ici au Centre d'artistes Vaste et Vague, et j'honorais une période qui s'appelait... c'est une résidence qui s'appelait Tenir feu et lieu. C'est là que je faisais Madras, et j'incarnais... On m'avait invitée pour la saison hivernale. Alors, j'ai commencé à développer le thème dans l'hiver. Et je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, quand on parle du cocon, quand on parle aussi de l'hiver, il y a quelque chose aussi, on est couvert, il y a la gestation. Je trouvais que la température de la neige, de la couverture, allait bien dans cette période-là. Et on arrive au printemps, ça commence à fondre. Et le projet, il y a un petit peu un narratif où... Dans l'immobilité, dans la vastitude de la blancheur, on a l'impression que tout est immobile. Et à un moment donné, il y a ces personnages-là qui ont l'air statiques, qui ne bougent pas. Et là, tout d'un coup, on voit, OK, il y a des foulards qui bougent, tout ça. Et tranquillement aussi, je mets en relation des petites herbes, malgré toute leur fragilité, se mettent à bouger. Et j'arrive normalement au moment où c'est la fonte des glaces. Et on voit les glaces qui... se détache. Et c'est ça que je montre, en fait. Donc, la fusion, on est encore dans l'effacement, quelque chose qui est très dense, qui est la neige qui recouvre et qui fond. Donc, c'était ça, en fait. Là, maintenant, ben, ça fait sens parce que je peux quand même prendre des parties où c'est pas, comment dire, on voit un petit peu d'herbe, un peu de neige, donc on est plus avancé dans le cycle. Faut voir. Moi, j'aimais beaucoup l'idée d'avoir les glaces, puis tu vois, donc là... oh, là, on va s'adapter.
Oui, et là, moi, j'ai traversé quand même... J'ai fait pas mal de kilomètres en autobus pour venir jusqu'ici. On est la première semaine de mars et il n'y a presque pas de neige par terre. Est-ce que la Gaspésie va rester la Gaspésie sans hiver?
Imagine. C'est dur à croire. Moi, je suis de retour ici depuis 2006, là, où je suis vraiment... 2005-2006, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est amusant, c'est ce projet-là que j'essaie de faire depuis 2017. m'a amenée à avoir une lecture du territoire parce que j'ai tellement pris de photos, de vidéos, j'ai énormément été en relation avec le territoire, tellement que je peux dire telle date c'est ça, telle date c'est ça, telle date c'est ça. Et là, ben, moi, je suis complètement confondue parce que j'ai réservé une vidéaste, ça fait un an pour cette période-ci, je l'avais réservée pour un mois. J'ai mis plein de gens, on est une équipe, là. Et là, ça n'a juste pas rapport. Donc, il y a comme...
Oui, parce que les saisons sont décalées.
Mais totalement, on est un mois et demi d'avance. Là. Mm. Ouais. On n'a pas fait de ski, on n'a pas fait... Donc, est-ce que c'est un épisode comme ça ou est-ce que c'est une nouvelle réalité? Mon copain est en France en ce moment, dans le sud de la France. Il m'a envoyé hier une photo. Les arbres sont remplis de neige.
Ah oui?
On est dans un contexte, ben oui. Puis moi, j'essaie de faire mon tournage ici. Puis là-bas, là, je me dis, bon, c'est un peu, c'est un peu ironique.
On arrive vers la fin de l'entrevue. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu voulais ajouter?
Ben écoute, il y aurait mille choses à dire. Et en même temps, on a déjà dit tellement de choses. Tu m'as fait voyager dans ma propre réalité. Je te remercie d'être là déjà.
Ben, merci à toi de m'accueillir.
D'être venu à ma rencontre, et puis voilà.
Et ma dernière question, en fait, c'est une question que j'ai de la difficulté à formuler, plus ça va, mais je ne veux pas l'abandonner. c'est de demander à mes invités s'ils devaient citer un objet culturel, mais vraiment dans le sens le plus large possible. Ça peut être quelque chose d'immatériel, ça peut être des traditions, n'importe quoi, mais qui serait quelque chose qui incarne leur culture personnelle avec toutes ses influences. Qu'est-ce que ce serait?
Ah, je suis désolée, il faut que je te demande de répéter la question.
si tu devais citer un objet culturel pour qui incarne en fait toutes tes influences culturelles en tant que personne, mm-hmm. qu'est-ce que tu citerais?
Oui, j'ai ma réponse. C'est ça.
Donc,
la texture origine.
Donc, pour décrire, j'ai l'impression que c'est un tissu recouvert de peinture, c'est ça, qui donne l'impression que c'est un cuir?
C'est vraiment une matière faite main que j'ai inventée. Donc, c'est vraiment une invention. Et c'est un accident. Je l'ai fait en 2001. Et c'était vraiment... c'est une expérience que je faisais avec une matière et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai mélangé des choses, puis c'est apparu ça. Puis, quand ça a fait ça... Ça a vraiment fait une résonance dans mon corps, puis ça a fait « wow ». Pour moi, c'était de la beauté. C'est drôle à dire, là, mais vraiment, c'était fort, c'était beau, c'était... Et là-dedans, je voyais que ça disait énormément de choses, et c'est comme ça que j'ai appelé ça « origine ». Et pour moi, juste ça, ça a reconfiguré, en fait, le sens de ma vie. Je suis devenue, avec ça, une artiste. Et à partir de la journée que j'ai fait ça, j'ai jamais arrêté de créer.
D'accord.
Et avec cette œuvre-là, ça m'a amené justement à me réconcilier avec tout le mariage de l'identité culturelle algérienne et tout ça. Et ça a complètement créé pour moi. Je me sens bien avec ça. Et ça m'a amené à questionner justement ce thème des origines. Et je suis toujours en train de l'approfondir. Et à travers ça, on peut toucher toutes les cultures. Puis en même temps, c'est quelque chose de très personnel. Comme c'est une création personnelle. Donc oui, je trouve que cette texture-là représente énormément pour moi.
Merci Nadia.
Merci à toi Alexia.
Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré dans l'atelier de Nadia à Chandler en Gaspésie. Et produit avec CISM comme d'habitude. Si vous êtes à Montréal et que vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Nadia, elle est en résidence de création à la Fonderie Darling jusqu'au 30 juin 2024. Vous pourrez trouver les informations sur les portes ouvertes et les événements grand public organisés sur la page du site web de la Fonderie dédiée à sa résidence. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Si vous êtes un peu patient, Nadia exposera aussi à la galerie L'Onyx dans Ville-et-Marre en octobre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Québec au pluriel.